Divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Ravie de retrouver l'antenne après cette longue période de rediffusion. Dû à la crise sanitaire dont nous ne sommes toujours pas sortis. Contente d'être à l'antenne avec Mathias Girel, dont nous devions rediffuser l'émission sur la culture de l'ignorance le 23 août. Ravie de rencontrer le nouveau réalisateur de divers aspects de la pensée contemporaine, Peyré Legras, et heureuse de dire toute ma reconnaissance à Dany Journaud, à laquelle Peyré succède pour cette grande dizaine d'années de sourire, de souplesse psychique et de professionnalisme ne se prenant jamais trop au sérieux. Mathias Girel, bonjour. Vous êtes philosophe, maître de conférence à l'École normale supérieure, et vous étiez venu en janvier 2018 nous parler de la culture de l'ignorance, ce bel oxymore désignant la tentative qui est la vôtre, notamment à la suite d'autres philosophes, et je pense à Robert Proctor, de réfléchir à l'ignorance, d'en produire des analyses fines, précises et stratégiques. Vous aviez alors publié aux éditions Quae un livre, Science et territoire de l'ignorance, et vous aviez co-dirigé avec Michel Leduc le numéro 204 de Raison présente, La culture de l'ignorance, numéro aussi vite épuisé, mais que les auditeurs de France Culture qui le souhaiteraient peuvent retrouver en ligne sur Cairn. Or, il m'a semblé que tout ce que vous disiez dans cette émission de janvier 2018, sur un plan un peu théorique, s'était vu éclairé et mis en œuvre au moment de la crise sanitaire. Nous avons assisté à une forte demande de connaissances scientifiques sur ce virus, la façon dont il émerge, se propage, se transmet, la façon dont on peut le soigner, les raisons de sa nouveauté, et en même temps, on a vu circuler en nombre des explications non scientifiques, fantaisistes, complotistes. Vous, Mathias Girel, vous aimez à distinguer différentes formes d'ignorance et différentes postures qui vont de la production d'ignorance à l'infox en allant jusqu'au complotisme. Peut-on éclairer et caractériser ces différentes postures qui se sont mêlées et se mêlent encore aujourd'hui lors de cette crise sanitaire?
Effectivement, là, vous abordez la question de la pandémie et c'est un cas d'école intéressant quand on réfléchit à la question de l'ignorance, parce qu'au départ, il y a une ignorance radicale au départ et une ignorance qui se poursuit sur le virus. Même s'il fait partie d'une famille étudiée, même si l'épidémie de SRAS du début des années 2000 constitue un précédent, il y a bien eu une forte sidération lors des premières semaines. Les questions étaient massives. La question de la létalité, la question de la circulation, la question de savoir comment le virus tuait, ce qu'il fallait faire pour briser l'exponentielle, la courbe des malades et bientôt celle des morts. Et donc, ce que nous ont révélé les premières semaines, c'est qu'on était obligé d'agir en situation d'incertitude assez radicale. Et le fait que la communauté scientifique était en train de chercher à identifier le virus, à identifier bientôt les remèdes, fait intégralement partie de la situation, de ce qu'il faut décrire si on veut comprendre ces quelques semaines de février et de mars. Et donc ça, c'est un premier point, parce que si on masque cette ignorance-là, à ce moment-là, eh bien, on ment, on trompe. Et je pense à ceux qui ont dit un peu vite qu'il ne s'agissait qu'une petite grippe ou qui ont minimisé la pandémie. Donc ça, c'est un premier niveau. Et là-dessus, s'en rajoutent d'autres. Parce que l'ignorance, c'est pas seulement ne pas savoir, mais c'est aussi parfois être submergé d'informations entre lesquelles on ne peut pas trier. L'OMS a un mot pour cela, elle appelle cela l'infodémie. C'était popularisé par son secrétaire général en février. Et ça peut parfois, par extension, désigner des informations inexactes qui aggravent l'épidémie. On a pu lire, par exemple, en mars, vous avez dû voir ça, que les boissons chaudes, l'alcool ou même la cocaïne avaient raison du virus. C'est pas recommandé, hein, disons-le clairement. Et puis on a pu voir des et on a pu voir des intoxications au chlore, à la javel, après des déclarations un peu imprudentes du président américain. Donc on a cette couche-là qui se rajoute à la première, et puis peut-être une troisième, qui était la multiplication des théories sur l'origine du virus en particulier, ou sur son association avec des technologies qui n'en semble-t-il pas grand-chose à voir. Je pense à la 5G notamment. De nombreuses théories du complot ont éclos, se sont multipliées autour de cette question.
Ben oui, parce qu'en effet, l'émergence d'un nouveau virus provoque et l'effroi et des théories fantaisistes ou des théories instrumentalisées politiquement par certains. Il serait né en laboratoire, il viendrait de Chine et ce serait une arme de la Chine. Est-ce que le concept de biais de proportionnalité peut nous aider à comprendre ce qui se joue ici ?
Oui, je pense. Alors c'est un biais qui consiste à estimer, souvent à tort, qu'à un grand effet correspond forcément une cause de même ampleur, aussi grande que l'effet, et qui peut nous empêcher de penser qu'une pandémie, qui a un effet de taille mondiale, c'est difficile d'imaginer plus grand, pourrait être due à une variation infinitésimale dans une séquence génétique, ou encore qu'elle pourrait être due à une rencontre ponctuelle entre certaines espèces animales et l'homme. C'est très difficile de se représenter donc un effet aussi considérable associé à une cause aussi minuscule. Et ce biais, on l'a vu fonctionner pour le sida notamment, avec toutes sortes de théories du complot qui le reliaient à une expérimentation biomilitaire. On est obligé d'imaginer l'armée américaine, les services secrets derrière. Et également pour Zika, pour le virus Zika, il y a quelques années, pour ne pas remonter aux légendes qui entouraient les puits empoisonnés il y a quelques siècles. Donc ça, c'est un biais qui se manifeste. Mais je pense qu'on aurait tort si on ramenait ce phénomène complotiste à une pure affaire de biais individuel. Disons, on aurait tort de trop individualiser la question, même si ces biais ont sans doute le support. La dispute sur l'origine du virus, par exemple, dans l'hypothèse de la fuite par négligence, l'idée que le virus se serait échappé d'un laboratoire, a fait l'objet d'un affrontement tenace entre les puissances américaines et chinoises sur les réseaux sociaux et notamment Twitter. Et donc, lorsque vous avez des services diplomatiques, des ministères des Affaires étrangères qui s'emparent de l'affaire, eh bien, il me semble que les choses changent de cadre et sans doute de sens. Et c'est plus uniquement une question d'un hobby intéressant, quelques illuminés, enfermés avec leur webcam et un accès à YouTube. Ça devient un phénomène géopolitique, voire géostratégique. Et il y a également, sans doute, il faut rajouter à cet étage-là, une couche de désinformation qui a impliqué certains médias de masse. Et je pense à des études épidémiologiques qui ont été faites sur l'exposition de téléspectateurs américains à deux émissions de Fox News, la chaîne télé bien connue, et en essayant de voir ce qui se passait pour ceux et celles qui étaient exposés aux émissions de Sean Hannity et de Tucker Carlson, qui sont des segments très riches en désinformation sur le virus. Et donc je pense que si on veut comprendre un peu la complexité de cette situation, il faut tenir ces différents niveaux ensemble. Le niveau individuel, le niveau plus géopolitique, géostratégique, et puis une détérioration sur certains médias de la qualité de l'information.
Alors, comment expliquer cette infox, justement de Fox News ? Est-ce que le rapport à la peur, à l'incompréhension peut l'éclairer ?
Il y a sans doute un rapport à la peur, et ça, c'est pas un motif totalement irrationnel dans les premières semaines de l'épidémie, et peut-être encore aujourd'hui. Hein, c'est une maladie qui est inquiétante quand on contracte la forme grave. Il y a sans doute, et peut-être de manière plus probable pour ce média, le souhait d'éviter des mesures fédérales, des mesures gouvernementales qui réduisent la liberté du commerce, des individus, et qui a sans doute été un motif très puissant disons, de dénégation, de lutte même contre les mesures de protection. Je pense que le motif politique, le motif de polarisation est très fort aux États-Unis.
Oui, comme si justement la composante politique ou économique importait toujours.
Oui, mais ça, on l'a vu dans d'autres débats hein, sur le climato-scepticisme.
Bien sûr.
On a pu voir qu'aux États-Unis, votre position à l'égard de cette question, elle est davantage déterminée par votre appartenance politique que par le niveau d'études ou par d'autres facteurs.
Bien sûr. Alors, on a assisté à une attitude de grande méfiance du public vis-à-vis des politiques étatiques, de leur gestion de la crise. Et on a pu en effet s'étonner de la communication en période de crise de la puissance publique. Et une des questions que nous nous sommes posées, c'est comment dire qu'on ne sait pas bien, comment dire qu'on a détruit le stock de masques parce qu'ils étaient périmés et qu'on n'en dispose pas. Pourquoi ne pas dire qu'il faut fabriquer des masques et créer un mouvement citoyen autour de cela? Comment penser une communication politique qui serait juste?
Alors, je n'ai pas forcément toutes les recettes, vous vous en doutez. Mais en tout cas, bon, je pense qu'il est capital, quand on ne sait pas, de dire qu'on ne sait pas. Et que toute tentative de le masquer aura forcément des effets indésirables. Je pense aussi qu'il faudra bien analyser à froid la période qui court entre les premières alertes et le début du mois de mars, disons mars-avril. On est dans une période assez trouble de communication des institutions. L'OMS reprend en janvier la communication chinoise sur l'absence de communication interhumaine avant de se raviser. Il y a quelques petits ratés, disons, de communication. On a un exemple de l'étranger bientôt, qu'il s'agisse du Brésil ou des États-Unis, qui n'est guère rassurant. Et puisque votre question concerne en grande partie la France,
oui.
Il me semble, sans juger du tout du reste des politiques, hein, mais que la communication sur les masques dans notre pays a été un peu désastreuse et qu'elle pèsera pendant de nombreux mois, en fait, sur les débats. Plusieurs raisons à cela. Moi, il me semble que l'indisponibilité de masques, mais aussi de préparation aussi simple que le gel hydroalcoolique, ont été une forme de traumatisme pour beaucoup vis-à-vis de l'image industrielle ou du passé industriel de la France. Mm-hmm. De même que la séparation comptable tous les soirs entre les morts à l'hôpital et les autres. Et au milieu de tout ça, les éléments de langage sur le masque, inutiles si on n'est pas malade ou contre-indiqués en population générale, comme on disait, eh bien, il me semble que ces éléments ont été vecteurs de confusion. Et je donne mon avis plus de citoyen que de chercheur ici, mais je pense qu'il aurait mieux valu affirmer nettement l'état de pénurie, sans doute durable, et demander à nos concitoyens un effort sur la base de cette pénurie pour préserver l'accès de la communauté des soignants et aussi de ceux qu'on appelait les premiers de corvée à cette ressource. Pourquoi ? Il me semble que le danger est le suivant. Dès qu'on est dans un rapport instrumental à l'opinion, en se disant qu'on va masquer une vérité importante, ici la pénurie, pour ne pas créer de panique, eh bien il me semble qu'on produit à ce moment même un soupçon, non plus irrationnel, mais légitime sur toute prise de parole publique à venir. Et c'est pour ma part un prix qui est trop cher à payer. Il ne faut pas s'étonner ensuite si on parle de défiance.
Mmh. Qu'est-ce que les rationalistes peuvent apporter dans ces moments où l'on doit expliquer très calmement et le plus clairement possible comment la science procède?
Je pense que les rationalistes peuvent apporter beaucoup de choses. Déjà par leurs compétences pour ceux d'entre elles ou d'entre eux qui font de la recherche sur la maladie. Mais au-delà, il me semble qu'ils peuvent, s'ils sont attentifs aux conditions de production du savoir, donc à la façon dont la recherche est menée, aider à être vigilants sur le domaine de compétence des personnes qui se succèdent pour se prononcer de manière définitive parfois sur la pandémie. Donc il y a une forme de vigilance épistémologique à exercer. Enfin, toute personne qui a regardé les chaînes d'information en continu pendant le début de la pandémie verra très bien de quoi je parle. Ça peut être aussi rappeler qu'il y a un tempo de la recherche, notamment sur les essais médicaux et aussi sur les vaccins, et qu'on ne peut pas accélérer ce tempo sans risque. Il est utile de rappeler, pour celles et ceux qui sont en situation de le faire, les conditions d'un essai médical, par exemple. Il me semble qu'ils savent aussi que la réponse à un phénomène aussi complexe qu'une pandémie exige, comme c'est le cas pour de nombreux points de la recherche, hein, le concours de nombreuses compétences pour la Covid.
Puisqu'il faut dire là.
Il faut dire la Covid, ce serait au moins la virologie, l'infectiologie, la réanimation, la pneumologie, enfin, on peut citer de nombreuses spécialités médicales. Il me semble qu'il faut qu'il y ait aussi des experts de santé publique et même aussi de logistique. Ça fait partie de la crise. Comment est-ce qu'on va acheminer des protections, des médicaments? Et de ce point de vue-là, si on a pris en compte cette dimension, disons, plurielle, collective de la recherche ou de l'action réglementaire, eh bien, il est douteux qu'une personne isolée de ce travail collectif puisse porter une parole éclairante à ce sujet. Ça peut être aussi un critère à mobiliser. Mais au fond, je pense que l'intérêt des rationalistes et celui des citoyennes et des citoyens, c'est au fond le même. C'est demander à ce qu'on entende clairement les communautés scientifiques concernées. Et ça peut consister très modestement, individuellement, à lire en détail les avis du Conseil scientifique. Je pense à l'avis du 3 septembre et sur la réduction de la période d'isolement à 7 jours. Quand on voit ce que le Conseil dit, c'est un peu plus nuancé que ce qu'on a pu entendre par la suite. Et plus profondément, je pense que tout ce qui peut aider à réduire la confusion dans un domaine où elle est déjà naturellement assez présente est bon. Alors, ça peut être interpeller ses élus, ses représentants sur les mesures locales, demander de la cohérence dans l'action publique. J'ai été frappé, comme beaucoup peut-être, par les cartes de ville où l'obligation de port du masque changeait d'une rue à l'autre. Il faut peut-être mieux des mesures générales, compréhensibles par tout le monde. Et aussi peut-être la cohérence, que ce soit sur le traçage, sur les mesures d'isolement, sur les activités en milieu fermé qui sont compatibles ou non avec la persistance du virus. Et le pire danger, qui est un danger à mon avis pour tout rationaliste, ce serait une politique de prévention en attendant un vaccin éventuel à laquelle plus personne ne comprend rien. Et ce n'est pas une issue à laquelle une rationaliste ou un rationaliste peut se résoudre.
C'est sur ces pistes, Mathias Girel, que nous allons clore cette émission. Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Je rappelle les deux derniers numéros de Raison Présent. Nourrir 10 milliards d'êtres humains, un numéro sur la sécurité alimentaire, et le prochain numéro à paraître, Les images et le réel. Le prix de l'Union rationaliste sera décerné le 18 novembre prochain à l'École normale supérieure à Gérard Noiriel. Ceux qui veulent venir peuvent demander d'être invités sur le site de l'Union rationaliste. Je remercie Peyré Legras à la réalisation, Jean-Michel Bernot à la technique. Je remercie Claire Poinsignon pour sa collaboration à l'émission et je vous dis au mois prochain.